Père Nicolas Sautreau, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria.
Bonsoir à tous et belle fête de la Sainte Trinité, puisque nous sommes dans ce lendemain de fête qui nous fait adorer, louer et aimer la Sainte Trinité. Seul l'Évangile est parole d'Évangile. Donc il n'y a que l'Évangile qui doivent être crus, suivis, d'une certaine manière pratiquement adorés. Les auteurs, encore plus lorsqu'ils ne sont pas canonisés, ne sont pas paroles d'Évangile. Donc ce soir, je peux commencer par une critique à l'égard de Jean Danielou au sujet de cette dernière partie de la retraite spirituelle qu'il nous a prêchée, qui concerne bien sûr le Saint-Esprit. Après le Père, le Fils, vient la troisième personne de la Sainte Trinité. Eh bien, ce n'est pas pour l'excuser, mais un peu comme dans nos credos de la liturgie, même le symbole de Nicée-Constantinople, le grand « Je crois en Dieu », Jean Danielou va être plus court sur le Saint-Esprit que sur les autres personnes de la Sainte Trinité. C'est dommage, surtout que Jean Danielou a beaucoup à dire, qu'il connaît tellement bien les pères de l'Église d'Occident comme d'Orient, qu'il a tellement lu les grands auteurs et leurs traités du Saint-Esprit, qu'il connaît tellement bien saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, qu'il avait énormément à dire sur le Saint-Esprit. Mais on arrive à la fin de la retraite, le prédicateur est peut-être un peu fatigué, les auditeurs sont peut-être un peu fatigués, et comme à la fin de certains livres, on va un petit peu vite pour aborder la dernière grande partie de ce qui veut être prêché, de ce qui veut être enseigné. Et pourtant, Jean Danielou connaissait ce groupe d'auteurs de l'université d'Oxford en Angleterre qui affirmait inlassablement que croire au Saint-Esprit est essentiel pour dire qu'on est chrétien, parce que d'une certaine manière, croire au Père et au Fils est un peu plus simple. Alors que la personne du Saint-Esprit, tellement insaisissable, tellement spirituelle, est spontanément plus difficile à cerner. Et pour ces auteurs spirituels et ces théologiens, tant qu'on n'est pas parvenu à une foi développée, adulte, consciente en la personne du Saint-Esprit, on n'est pas encore dans la grande confession de la foi chrétienne. Voilà pourquoi il est essentiel de développer le traité spirituel qui concerne la personne du Saint-Esprit. Le chemin d'accès que nous propose Jean Danielou pour cette contemplation de la personne du Saint-Esprit, c'est celui de l'envoi du Saint-Esprit. C'est celui de la fête de la Pentecôte en particulier, avec ce mystère glorieux de la mission du Saint-Esprit. C'est une des manières de présenter les mystères glorieux du rosaire, de parler de la résurrection du Christ, de l'ascension du Christ, et pour le troisième mystère, de dire la mission du Saint-Esprit, ce qui permet de nommer le Saint-Esprit. Troisième mystère glorieux, la mission du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est à partir de ce mystère que nous allons scruter le Saint-Esprit dans son éternité, le Saint-Esprit au sein de la Trinité divine. Comme à propos du Fils, quand on parle de la Sainte Trinité, il faut regarder les missions des personnes divines, donc la mission du Fils dans l'incarnation, la mission du Saint-Esprit, disons dans le mystère de la Pentecôte, comme un prolongement des relations éternelles entre les trois personnes divines. Ce qui se passe lorsqu'une personne divine entre dans le temps, entre dans notre histoire, nous révèle ce qui se passe entre les personnes divines de toute éternité et pour toute éternité. Tout s'accomplit d'abord en Dieu. Nous, nous faisons le chemin inverse. Nous commençons, grâce à l'Évangile, grâce au Nouveau Testament, par découvrir les événements du salut, et à partir de ces événements du salut, nous remontons jusque dans Dieu et son éternité, Dieu et sa vie divine, mais dans la réalité telle qu'elle est, toutes choses s'accomplissent d'abord en Dieu, dans la vie intime de Dieu. Et il nous est donné de comprendre l'existence, de comprendre la vie à partir du vrai Dieu, à partir du mystère de Dieu tel qu'il est en lui-même, de Dieu trinitaire. Vous vous souvenez bien, vous le reconnaissez, que c'est finalement tout le mouvement de cette retraite spirituelle prêchée aux jeunes adultes que d'aider à se comprendre soi-même grâce à la révélation du mystère de la Trinité. La Trinité, c'est l'expression de la vie de Dieu dans sa parfaite suffisance à elle-même. Nous retournons sur ce mot qui volontairement a un impact dans notre émotivité, dans notre sensibilité, la suffisance de Dieu. Les missions sont un rayonnement, une répercussion dans le monde créé de ce qui d'abord s'accomplit parfaitement et entièrement en Dieu lui-même. La phrase suivante que prêche Jean Danielou, que nous prêche Jean Danielou, est très très mûrement réfléchie, elle est pesée, et on voit que nous sommes face à un texte de la grande maturité du cardinal Danielou. Que ce texte est un texte des 10 dernières années de sa vie, et qu'il a beaucoup pesé les choses, lui qui a été partie prenante du mouvement œcuménique, qui a beaucoup participé au dialogue œcuménique avec nos frères orthodoxes séparés, et bien finalement, il va prendre parti de tout son cœur pour ce qu'on appelle le filioque, cet élément, ce dogme de l'Église catholique qui dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Filioque, ça veut dire tout simplement cela, et du Fils. Il ne procède pas seulement du Père, comme le Verbe ne procède que du Père. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, procède du Père et du Fils éternellement. Pourquoi il fallait mesurer, peser et réfléchir pour redire cela dans une conversation spirituelle, dans une instruction spirituelle? Parce que c'est vraiment fermer la porte à une partie du dialogue possible avec les chrétiens orientaux séparés du siège de Rome. C'est dire, oui, affirmer que ce qui caractérise la relation du Saint-Esprit aux deux autres personnes de la Sainte Trinité, c'est le fait qu'il procède de l'une et de l'autre, c'est tenir une donnée spirituelle essentielle. Et d'abord, tenir le fait que nous pouvons dire beaucoup de choses sur la Sainte Trinité. Que nous ne sommes pas à la porte du mystère, en nous interdisant d'entrer dans la vie même de Dieu, dans les relations à l'intérieur de la famille divine, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit nous ont invités à entrer à l'intérieur et à regarder la vie telle qu'elle est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ainsi, nous pouvons dire que le Saint-Esprit vient aussi du Verbe, qu'il y a quelque chose de particulier au Saint-Esprit qui est de ne pas venir seulement du Père, mais de procéder aussi du Verbe. Et pourquoi Jean Danielou, après avoir mûrement réfléchi, beaucoup, beaucoup prié, après avoir fait le bilan de toutes ces conversations, de toutes ces tentatives de convergence et de dialogue avec les orthodoxes, pourquoi décide-t-il qu'il faut s'engager et tenir le filioque, tenir ce que nous disons, nous, chaque dimanche à la messe, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, mais nous commençons par dire, il procède du Père et du Fils. Pourquoi? Parce que ce développement de l'intelligence du mystère de la Trinité, qui appartient d'une façon assez particulière à l'Occident latin, va permettre de dire du Saint-Esprit qu'il est l'amour qui unit le Père et le Fils. Que grâce à cette affirmation que le Saint-Esprit procède aussi du Fils, le Saint-Esprit devient le baiser d'amour entre le Père et le Fils. Et Jean Danielou, qui connaît très très bien les pères grecs, va pouvoir dire qu'on trouve cette affirmation chez plusieurs pères grecs du IVe siècle. Donc que ce n'est pas une invention de l'Occident, que cette manière de présenter le Saint-Esprit comme un baiser d'amour entre le Père et le Fils, c'est une manière de connaître l'Évangile, une manière de se laisser éclairer par l'Esprit-Saint lui-même sur son propre mystère. Oui, telle est l'affirmation au sujet du Saint-Esprit, il est l'amour éternel qui unit le Père et le Fils. Et derrière cet enseignement de Jean Danielou, il y a toute la réflexion de saint Augustin qui se demande pourquoi on dit d'un côté Dieu est amour, donc l'essence de Dieu c'est d'être amour, la Trinité est amour, et pourquoi dit-on d'un autre côté en même temps l'Esprit-Saint c'est l'amour, c'est l'esprit d'amour. L'Esprit-Saint c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. L'Esprit-Saint, finalement, c'est l'amour du Père et du Fils répandu dans nos cœurs. Et saint Augustin dit que les deux sont vrais, mais que si on dit que l'Esprit-Saint est la personne amour, c'est parce que éternellement, il est ce nœud d'amour, cette communion entre le Père et le Fils. Et que lorsque nous recevons l'Esprit-Saint, nous recevons l'amour. Voilà pourquoi le but ultime de toute l'œuvre de la rédemption, c'est la communication de l'Esprit-Saint, parce que le but ultime de tout, c'est d'être envahi, d'être rassasié de l'amour de Dieu lui-même. En Dieu, il y a un amour personnel qui procède du Père et du Fils. Et Jean Danielou, encore une fois, décide qu'on ne peut pas renoncer à une telle intelligence du mystère de la Sainte Trinité. Qu'il est impossible, pour des raisons œcuméniques, de ne pas continuer à dire que dans la Trinité, il y a l'amant d'un côté, l'aimé de l'autre, le Père, le Fils, et ce qui les relie, l'amour. Et que c'est tellement essentiel pour notre connaissance amoureuse de Dieu, justement, qu'il faut absolument préserver ce trésor de la révélation que le Seigneur Jésus est venu nous communiquer. Si nous creusons un peu plus loin, nous allons être amenés à contempler que cet amour n'est pas quelque chose qui existerait dans le Père ou dans le Fils. L'Esprit-Saint en tant qu'amour n'est pas un amour qui serait dans le Père ou qui serait dans le Fils. En tant qu'amour, l'Esprit-Saint, nous le croyons, est une personne. Il est la troisième personne. Il n'est pas une partie du Père ou une partie du Fils. Il est vraiment une personne, comme le Père est une personne divine et comme le Fils est une personne divine. Et voilà pourquoi, lorsque nous méditons sur la Sainte Trinité, nous devons essayer d'accorder autant de temps aux trois personnes divines. L'Esprit Saint n'est pas, si vous me pardonnez cette expression, une sous-personne en Dieu. Il n'est pas moins Dieu que le Père est Dieu ou que le Fils est Dieu. C'est le caractère personnel de l'Esprit Saint qui est tellement essentiel à scruter, à méditer et à se laisser enseigner par l'Esprit Saint lui-même. Le caractère de personne. Chacune des personnes divines a un caractère. Et c'est en recevant la lumière au sujet de ces trois caractères, si vous voulez, que nous allons plus loin dans la connaissance du mystère de Dieu. Tout ce que notre pauvre petite pensée, blessée par le péché originel en plus, peut distinguer en Dieu de ce qui est possédé en commun par les trois personnes divines, c'est précisément le caractère propre de chacune des personnes et la relation que ce caractère propre établit entre les personnes divines. Et voilà que nous devons demander toute l'aide du Seigneur pour être enseignés au sujet du caractère du Saint-Esprit, le caractère de la troisième personne de la Sainte Trinité. Eh bien, cet amour qui unit le Père et le Fils, finalement, c'est le caractère de la troisième personne de la Sainte Trinité. Parce que cet amour subsiste dans une personne. Alors, j'ai du mal à résister à la joie de vous dire qu'il y a là presque un jeu de mots caché de la part de Danielou avec le mot subsiste dans. C'est une expression qui est utilisée pour parler d'Église, pour parler de l'Église de Dieu et de l'Église catholique. Et là, Jean Danielou se dit ben finalement, le vocabulaire qui est utilisé pour parler de l'Église, et si je le récupérais pour aller beaucoup plus haut et parler de Dieu lui-même. Et pour essayer de dire quelque chose du Saint-Esprit, je vais utiliser cette expression qui a été ciselée, qui a été façonnée pour être très précise et très utile, et je vais l'appliquer au Saint-Esprit. Je vais dire, voilà, en Dieu, l'amour subsiste dans la réalité de la personne du Saint-Esprit. Il y a une subsistance de l'amour qui existe entre le Père et le Fils, une subsistance personnelle, une relation subsistante qui est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour dans un sens que nul n'avait pu imaginer avant les paroles, la prière et la lumière du Seigneur Jésus. Il vient nous dire ce qu'est l'amour en Dieu. Nous pouvons progresser et entendre la manière spirituelle d'exprimer cela en recueillant le mot de la fécondité. L'Esprit Saint est la fécondité de l'amour du Père et du Fils. Nous avons besoin de méditer paisiblement cette affirmation au sujet de l'Esprit Saint. Il est la fécondité, ce qui veut dire qu'il est l'abondance d'amour entre le Père et le Fils. Si vous voulez, il est la plénitude d'amour. Et en ce sens-là, il est la richesse de la Sainte Trinité. La richesse d'amour de la Sainte Trinité. La Trinité est à la fois un mystère de pauvreté et un mystère de richesse. Dans un livre beaucoup plus ancien, qui s'appelait « Dialogue » au pluriel, Jean Danielou voulait dire ce qu'est le Dieu chrétien par rapport aux autres conceptions de Dieu dans les philosophies et dans les religions. Et il disait « Le Dieu chrétien est ce Dieu en trois personnes qui se communiquent totalement l'une à l'autre, en sorte qu'aucune personne divine ne possède rien en propre, mais qu'elle possède en commun leur nature. Il n'y a pas de propriété privée entre les trois personnes divines. Elles sont toutes pauvres, toutes dans la gratuité. Les trois personnes divines vivent un détachement et une pauvreté par rapport à l'essence divine, par rapport à la nature divine. Il y a une telle communication entre les personnes divines qu'aucune personne divine ne possède pour elle toute seule la nature divine. Voilà pourquoi on peut, avec un peu d'audace, faire remonter le mystère de la pauvreté chrétienne, de la pauvreté évangélique, en Dieu lui-même, dans la Trinité. Mais en même temps, il y a un mystère de richesse, un mystère d'abondance, de surabondance. Et cette richesse, nous croyons que c'est la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous affirmons que la plus grande richesse sur terre, c'est l'amour que Dieu a mis en nous, l'amour qui est nous-mêmes et que nous emporterons au paradis, c'est la seule chose que nous emportons au paradis, l'amour. Les péchés, on les emporte au purgatoire et nous en serons délestés par la grande miséricorde et l'amour de notre Seigneur. Ce que nous emportons au paradis, c'est l'amour, c'est notre unique richesse. Eh bien, en Dieu, il y a cette richesse d'amour. Et nous disons que c'est le Saint-Esprit qui est la richesse de la Trinité, qui est le fruit infiniment riche du Père et du Fils. Et ce fruit, c'est l'amour. Saint Paul le dira dans sa belle phrase sur la charité, en disant « le fruit de l'Esprit est l'amour ». Mais nous allons un peu plus loin, pas plus loin que Saint Paul, mais en tout cas nous méditons grâce à Saint Paul, et nous disons que l'Esprit lui-même, l'Esprit Saint, est le fruit dans la Trinité. Le fruit du Père et du Fils, et que ce fruit est l'amour. Cet amour se communique entre le Père et le Fils, et nous allons oser dire qu'il s'épuise dans la procession du Saint-Esprit. Qu'on est dans l'idée d'un amour inépuisable, qui pourtant s'épuise lorsque cet amour est vraiment, en tout cas compris par nous, comme étant la personne du Saint-Esprit. C'est une fécondité intarissable, c'est un amour intarissable, mais qui atteint une perfection, et cette perfection, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la profusion de Dieu, c'est l'excellence de Dieu. On cherche à dire les choses. C'est tout simplement la bonté de Dieu. Les plus anciens des théologiens de l'Église osaient dire que c'est le rassasiement de Dieu. Le rassasiement de la vie de la Trinité, c'est la personne du Saint-Esprit. Ils disent aussi que c'est la saturation. Voilà. L'Esprit Saint est la saturation de l'amour entre le Père et le Fils. Parce qu'il est le don insurpassable. Jean Danielou aimait la langue hébraïque. Il l'aimait, il connaissait non seulement l'hébreu, mais l'araméen et aussi le syriaque ancien. Et Jean Danielou aimait aussi rappeler que le nom par lequel on commence à nommer l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, c'est le souffle, c'est le mot ruach, et c'est du féminin. Voilà. Comme la Trinité est un mot féminin, là aussi, il y aurait matière à beaucoup méditer sur ce choix du féminin pour parler des trois personnes divines en même temps. Eh bien, dans la Trinité, alors que le Père et le Fils sont pour nous des noms masculins, l'Esprit, finalement, n'est pas un neutre, il est un féminin. Le vrai nom hébraïque du souffle divin, du souffle de la respiration entre le Père et le Fils, c'est une des méditations sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est cet échange de souffle de vie entre le Père et le Fils, avant d'être le souffle qui nous remplit au jour de la Pentecôte et au jour du baptême et de la confirmation et qui nous remplit lorsque nous le demandons, c'est la respiration entre le Père et le Fils, c'est cet échange d'amour, cet échange de vie et cet échange de lumière entre le Père et le Fils. L'esprit est féminin, le souffle est féminin. Et voilà pourquoi il est en Dieu la maternité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a la paternité, il y a la filiation. Et si nous voulons continuer à chercher des analogies avec la création de Dieu, il y a en Dieu la maternité qui est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est la fécondité, l'Esprit Saint est le fruit, l'Esprit Saint est le don et la générosité, il est la vie qui se déploie. Dieu tellement vivant, oui, eh bien, en Dieu, l'Esprit Saint est aussi la vie, en tant qu'il est le bourgeonnement de la vie qui procède de la paternité et de la filiation. C'est de cette manière-là que nous disons que dans le rythme éternel qui existe en Dieu de procession et de recueillement, eh bien, l'Esprit Saint est la plénitude de ce mouvement. Il est, si l'on veut, le mouvement lui-même, il est la perfection du mouvement et il est aussi la plénitude du mouvement. Délibérément, Jean Danielou nous parle aussi de recueillement en Dieu. Il veut que cette grande donnée de notre vie spirituelle, qui est le recueillement, lorsque nous prions, nous ne nous concentrons pas, nous ne nous recentrons pas sur nous-mêmes, nous nous recueillons. Le recueillement existe dans la Sainte Trinité. Il y a un mystère de procession, un mystère de sortie et un mystère de recueillement. Il y a un mystère de sortie de soi-même, de renoncement à soi-même, de désappropriation de soi-même, et il y a aussi ce mystère de recueillement qui fait que nous nous retrouvons nous-mêmes, nous descendons en nous-mêmes pour nous connaître nous-mêmes, pour nous apprivoiser nous-mêmes. Eh bien, avec tout le respect dû au mystère de Dieu, de la Sainte Trinité, nous pouvons prétendre que le modèle de notre recueillement, au-delà de la Vierge Marie, au-delà du Seigneur Jésus, c'est la vie trinitaire elle-même qui est un infini et un éternel recueillement, en même temps qu'elle est un infini, un éternel jaillissement de vie, jaillissement de lumière et jaillissement d'amour. La Trinité se repose totalement en elle-même dans la plénitude de sa communication. Et le repos en soi-même, en même temps que la plénitude, grâce encore une fois à cet article de foi qui dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, ce repos et cette plénitude, c'est l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi, lorsque l'Esprit Saint est donné, lorsque s'accomplit la mission du Saint-Esprit, envoyé par le Père et par le Fils pour notre salut, pour nous les hommes et pour notre salut, il en est de même, nous recevons le repos et la plénitude. Nous recevons cette paix surnaturelle et infinie de Dieu qui est un des noms du Saint-Esprit. Nous avons, comme tous les ans, médité dans le bréviaire, dans la liturgie des heures, pendant l'office de nuit, l'office des lectures, le texte de Saint Grégoire de Nice qui nous dit, mais il n'y a même pas besoin de prouver que paix, le mot paix, est un des noms du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, la paix nous est donnée. Ce mystère de la paix, de la tranquillité qui est le Saint-Esprit, Jean Daniel Loup l'a beaucoup médité grâce à l'auteur du IIIe siècle, Tertullien. Tertullien écrit sur le Saint-Esprit, il écrit beaucoup sur la personne du Saint-Esprit. Il a aussi parlé d'une manière admirable de Dieu le Père. Et dans un texte étonnant au sujet des spectacles, voilà, des spectacles en général, Tertullien était rigoriste, il n'aimait pas du tout qu'on aille au spectacle, il n'aimait pas les bijoux, les coiffures alambiquées chez les dames, les toilettes qui coûtaient des fortunes, tout ça vraiment il n'aimait pas. Et pour essayer de convaincre les chrétiens qu'il n'était pas bon d'aller au spectacle, il disait « Aller à tous ces spectacles profanes, c'est faire fuir le Saint-Esprit. » Et Dieu, c'est le début de la citation de Tertullien, « Dieu a prescrit de traiter l'Esprit-Saint en tant que par la bonté de sa nature, il est tendre et délicat. » L'Esprit-Saint, affirme Tertullien, et reprendra Daniel Loup, par la bonté de sa nature, est tendre et délicat. Et parce que l'Esprit-Saint est tendre et délicat, il faut le traiter avec tranquillité et douceur, dans le calme et dans la paix. L'Esprit-Saint qui est délicat cherche à habiter dans la douceur et dans le calme les âmes de ceux qu'il sanctifie. Voilà. Donc, la bonté, la tendresse, la délicatesse, la tranquillité, la douceur, le repos et la paix. Et voilà pourquoi celui qui veut être intime avec l'Esprit-Saint doit refuser d'être agité par la fureur, la bile, la colère et même la douleur. Tout ce qui peut agiter ces réalités-là dans notre cœur, dans le plus profond de notre cœur, tout cela doit être fui parce que c'est incompatible avec la tendresse et la délicatesse de l'Esprit-Saint. Lorsque l'Esprit-Saint vient en nous, il demeure qui il est de toute éternité et pour toute éternité au sein de la Trinité, il demeure cette paix tranquille, douce et tendre. C'est aussi ce que veut évoquer cette expression du baiser d'amour entre le Père et le Fils, de cet embrassement du Père et du Fils, que tout simplement nous appelons la communion. L'Esprit-Saint est la communion en personne du Père et du Fils. Et une communion qui a ses caractéristiques de douceur, de paix et de tranquillité. Tout cela est affirmé par le Seigneur Jésus en personne, dans le grand discours après la scène, dans l'Évangile selon saint Jean, par exemple au chapitre 13e, où saint Jean nous dit que le Père va nous envoyer le Paraclet. Et que le Fils aussi envoie le Paraclet et il donne la paix. Voilà. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Si nous entendons ces mots-là avant la communion, c'est comme nous le verrons davantage la semaine prochaine, la communion eucharistique nous donne l'Esprit Saint, nous donne le feu de l'Esprit Saint. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parce que c'est de la plénitude du Christ que l'Esprit Saint va procéder pour nous. Jésus dit, le Père va vous envoyer un paraclet. Donc le Père envoie le paraclet, et en même temps, le Christ affirme que c'est de sa propre plénitude à lui que va pouvoir procéder l'Esprit Saint comme don pour tous ceux qui reçoivent la grâce de la rédemption. Dans les Actes des Apôtres, dans le grand discours de Saint Pierre, au chapitre 2, en particulier verset 33, au début des Actes des Apôtres, Saint Pierre, dans cette homélie pascale immense, dit que le Fils est maintenant remonté à la droite du Père et que, d'une façon unique, maintenant le Fils reçoit la plénitude de l'Esprit Saint dans son humanité. C'est l'humanité glorifiée du Seigneur Jésus qui monte au plus haut des cieux au jour de l'ascension pour aller s'asseoir à la droite du Père, comme nous l'avons déjà médité. C'est cette humanité-là qui reçoit la plénitude de l'Esprit Saint. Et c'est l'humanité glorifiée du Seigneur Jésus qui va pouvoir communiquer au monde la plénitude de l'Esprit Saint. Non pas quelques échantillons d'Esprit Saint, quelques arts d'Esprit Saint, mais la plénitude de l'Esprit Saint. C'est l'humanité, et dans l'Eucharistie, nous voyons que c'est le corps glorifié du Seigneur Jésus qui peut communiquer désormais la plénitude de l'Esprit Saint. Jean-Daniel Loup, à ce moment-là, nous demande, à nous qui l'écoutons, d'être toujours très précis dans ces choses-là. Et il nous dit, remarquez bien, c'est l'humanité du Christ qui est remplie de l'Esprit Saint. Parce que, bien entendu, dans sa divinité, le Fils est éternellement rempli de cette vie de l'Esprit Saint qu'il possède de par sa divinité. Mais c'est cette humanité qu'il est venu chercher, cette humanité qui est la nôtre, qui est déjà sainte et sanctifiée par l'Esprit Saint qui demeure en elle, qui demeure dans sa personne, eh bien, cette humanité reçoit au jour de l'ascension, ou plus exactement encore, puisque en ces matières-là, dit-il, il faut toujours être précis, plus exactement encore, c'est après l'ascension, c'est seulement après l'ascension que cette humanité déjà sainte et sanctifiée par l'Esprit Saint reçoit la plénitude de l'Esprit Saint. C'est un écho très clair à Saint Irénée de Lyon. L'Esprit Saint avait l'habitude de demeurer dans la personne du Fils, dans la divinité du Fils. Et voilà que l'Esprit Saint va prendre l'habitude maintenant d'habiter en plénitude dans une humanité. L'Esprit Saint est reçu en plénitude par l'humanité glorifiée du Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, l'humanité glorifiée du Seigneur Jésus devient la source jaillissante de laquelle l'Esprit Saint est communiqué. Il est la source. Le Père est la source dans la Trinité éternelle, bienheureuse et glorieuse. Et par l'œuvre de la rédemption, conduite jusqu'à son sommet, l'humanité du Seigneur Jésus devient à son tour la source pour chacun d'entre nous. Elle est la source du Saint-Esprit. Et nous croyons que nous nous approchons du Seigneur Jésus, glorifié aujourd'hui, pour recevoir la surabondance de l'Esprit-Saint.
Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant avec le Père Nicolas Sautreau. Le thème de cette émission était l'Esprit-Saint, richesse de la Trinité. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.